Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fauchiel.
À 19h18 sur RTL et jusqu'à 20h. On va donc refaire le monde ce soir. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait donc le monde avec la documentariste Rokhaya Diallo. Bonsoir Rokhaya.
Bonsoir.
Avec le journaliste Patrick Chen. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Marco.
L'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Bonsoir Yvan. Et comme tous les lundis, non, maintenant il change de jour d'ailleurs, Nicolas Domenach, quand il passe. Vous êtes ici chez vous, Nicolas.
Eh bien, bonsoir à vous.
Bonsoir. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Le Front National est donc rebaptisé Rassemblement National, annoncé hier de Marine Le Pen en clôture du congrès de son parti. Enfin, il faut que les militants votent pour le nom. Rassemblement National, un nom acquis en février dernier à une association politique qui rappelle le groupe de Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée dans les années 80, ou le parti collaborationniste de Marcel Déa sous l'occupation. Mais avec ce nouveau nom, le FN espère bien nouer des alliances à droite à l'image de Thierry Mariani. Alors, FN année zéro, croyez-vous au rebond sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret, bonsoir Benoît.
Bonsoir. Eh ben, en tout cas, rediabolisation garantie, s'écrie Eric devant les premières réactions, car beaucoup, vous l'avez dit, ont tapé sur Wikipédia et ont découvert le Rassemblement National Populaire, parti d'extrême droite collaborationniste de 1941 à 44. Le symbole est quand même fort, tic âne. Décidément, même leur équipe de com' est achetée à la poubelle, même pas foutu de faire une banale recherche sur Internet. La honte, ricane Henri. Mais Sylvain pense, lui, que ce n'est pas une erreur. Le logo historique du FN est déjà directement inspiré de celui du Rassemblement National de Déa. Et Anne Sinclair de tweeter que Marine Le Pen a beaucoup consulté et dit-elle beaucoup réfléchi. Elle n'ignore donc rien des rapprochements douteux auxquels le nouveau nom du FN fait penser. Jean-Michel remarque en effet que le nom est aussi celui du parti d'extrême droite de Tixier-Vignancourt, ancien vichyste, dont Le Pen, Jean-Marie, sera le directeur de campagne présidentielle. L'histoire familiale est bouclée, écrit-il. Avec ce nouveau nom, le FN ne fait même plus semblant. Jean-Marie doit être fier de sa fille, soupire Fadil. Régis pense que c'est une façon de rameuter la base financière historique tout en écartant les moins fachos. Ainsi, la PME Le Pen peut continuer à financer son train de vie sans le moindre risque de gagner le pouvoir. De toute façon, quand l'assistant parlementaire des Le Pen hurle des propos racistes, quel que soit le changement de nom, ce parti sera toujours rattrapé par la réalité de l'extrême droite, assure Laetitia. Mort de rire, à croire elle peut changer de nom comme on change de profil sur Facebook, analyse encore Jeroen, ou comme le conclut Stéphane, le FN qui change le nom, c'est un peu Vichy qui déménage à Contrexéville.
Alors, il faut quand même préciser sur l'assistant parlementaire qu'à ce stade, il y a une enquête qui est ouverte, mais lui, il conteste, évidemment, avoir donc insulté ce vigile en le traitant notamment de sale nègre. Nicolas Domenach, oui. Changement de nom, bien vu ou raté selon vous déjà?
Écoutez, c'était pas le Rassemblement National, c'est le ripollinage national, le ravalement national. Alors, est-ce que c'est réussi? À l'extrême droite, on connaît très bien son passé en règle générale, donc je ne peux pas imaginer un instant que les références à Déa leur aient échappé. Mais je crois qu'ils n'ont pas résisté à la tentation de piquer à la famille RPR la notion de rassemblement, qui était quand même la notion gaulliste, hein, le RPF, le RPR. Et ça, c'était le premier point. Le second point, il s'agissait bien évidemment de faire oublier la faille de Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle. Elle aura réussi 48 heures, mais en même temps, on a bien vu avec cet événement de l'assistant parlementaire accusé d'avoir effectivement proféré des injures racistes, que c'est un peu la maison hantée, je veux dire, le Front National, qui reste une PME, Le Pen, père, fille et petite-fille, et qui vit avec ses fantômes en permanence parce que c'est un parti xénophobe et qui ne peut se détacher de son passé très très lourd.
Donc un peu beaucoup de paillettes pour rien.
Pour pas grand chose, reste Le Pen.
Yvan, vous faites le même constat?
Je serais tout de même plus prudent. D'abord sur le nom du Rassemblement, en mettant de côté toutes les analogies que l'on veut faire un peu lourdingues sur un passé de Déa, etc., qui n'a rien à voir, parce que Déa, en plus, il venait de la gauche. Je pense qu'il faut retenir le nom de Rassemblement, déjà, ce qui laisse comprendre que le Front National est décidé à sortir de cette petite entreprise familiale et de son entre-soi, avec les petits imbéciles, en effet, qui pouvaient encore demeurer au cœur de cette entreprise-là. D'autant que Steve Bannon, qui est venu le samedi lors du congrès de Lille, a donné une envergure internationale à ce mouvement.
Comme vous dites, ouais, quelle envergure.
Une envergure internationale, mais si, parce qu'il a tout de même rappelé ce que tout le monde décrit, tout ce que le monde peut voir, c'est-à-dire que le Front National, aujourd'hui, n'est pas simplement un parti souverainiste en France, c'est un parti qui explore une dimension civilisationnelle qui se voit aux États-Unis et partout ailleurs en Europe. Et je pense que Bannon a eu raison de dire, ce que je dis moi-même d'ailleurs, c'est qu'effectivement, ces mouvements-là sont dans le sens de l'histoire. Et donc, cela dépasse très largement le Front National. Alors, naturellement, le jeu de la gauche et des macronistes va être de diaboliser, de dire le Front National est un parti xénophobe, raciste, d'extrême droite, enfin, et tout ça.
C'est vous qui l'avez dit, moi j'ai jamais employé le mot raciste, mais xénophobe,
oui,
certainement.
Xénophobe, vous avez dit xénophobe, oui, xénophobe, j'ai entendu l'extrême droite là-bas, fasciste bientôt, mais en fait ce n'est pas ça du tout, et d'ailleurs en fait on le sait bien, le Front National n'est plus le parti d'extrême droite qu'il a pu être avec Jean-Marie Le Pen, qui en effet cultivait un petit peu une pente vers la force, le coup de force, la violence, etc. Mais le parti de Marine Le Pen n'est plus celui-ci. Donc, non seulement ce n'est plus celui-ci, mais il ne répond même pas du tout aux critères d'un parti d'extrême droite, dans la mesure où ce parti-là se réclame de la démocratie. Il se réclame même du fait que cette démocratie soit le gouvernement du peuple, par le peuple.
Mais ce fameux Steve Bannon dit « Laissez-les vous appeler raciste, puisque vous parlez de ça, xénophobe, islamophobe, portez-le comme un badge d'honneur, parce que chaque jour qui passe, nous devenons plus forts, et eux s'affaiblissent. »
Oui. C'est à prendre.
À quel degré, parce
c'est à prendre. Prenez-le au premier degré si vous voulez.
Non, mais moi, je le mets sur la table.
Moi,
prenez
le prends au deuxième degré. C'est comme ça que j'avais fait un livre. Il s'appelait sur le populisme, parce que sur les réactionnaires, de l'urgence d'être réactionnaire, parce qu'à chaque fois, on
va renvoyer ce qualificatif. Ouais.
Donc autant l'accepter et autant accepter le mot populiste. D'accord. Le mot raciste ne veut plus rien dire naturellement.
Est-ce que vous écriez de l'urgence d'être raciste?
Pardon.
Est-ce que vous écriez de l'urgence d'être raciste? Parce que c'est quand même ça.
Non, non.
C'est-à-dire que là, il est dans un.
Non, mais ce que je veux dire. Non, mais tous ces interdits et toutes ces insultes, merci, on le voit bien, n'ont plus d'effet sur les opinions. On l'a vu en Italie, on l'a vu d'abord aux États-Unis, on l'a vu en Autriche. Et on le voit en France. Ce que voulait dire Bannon, c'est que laissez-les les chiens à bois, la caravane passe. C'était un petit peu ça. Je me sens, j'imagine.
Moi, je suis quand même surpris que vous, qui êtes quand même très attaché à l'histoire, on l'a vu souvent même dans cette émission,
Patrick Chen,
vous balayez d'un revers de main cette référence à DA. Moi, je pense que Marine Le Pen a de la culture également. Et vous pensez que c'est simplement un hasard? Il y a un moment, il faut assumer les choses. Je pense qu'elle a quand même travaillé. Ils ont regardé les références, même Tixier. Enfin, aujourd'hui, est-ce que
DA, c'est Rassemblement National Populaire.
Oui,
c'est Rassemblement National.
Oui,
donc, c'est pas la même chose. Non, mais vous pourriez dire pour le RPR un petit peu la même chose. Le rassemblement, c'est du RPR, c'était...
Pour la République.
Pour la République, il y avait le rassemblement aussi.
Ouais, mais...
Deux sur trois, quoi, quand même, pour deux sur trois.
Allez-y, mais
non, il y a un côté que vous ne soulignez pas, c'est quand même le côté un peu pied nickelé. Moi, j'ai quand même été surpris, parce que vous parlez du grand rassemblement, de ce mouvement qui devient international. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu pied nickelé, ne serait-ce que par le manque de... Alors, je ne dis pas que l'INPI va dire qu'ils ne peuvent pas utiliser ce nom.
Non, parce que c'est l'inverse, en fait. Vous avez vu, ils peuvent l'utiliser.
Mais pourquoi ne pas avoir anticipé, de faire un communiqué tout de suite quand il y a eu cette personne qui a râlé ce bug? Je trouve que ça a donné un petit côté flou, un petit côté... Quant au rassemblement, Philippot, Marion, Jean-Marie, j'ai pas l'impression que les historiques du parti, fussent-ils récents comme Marion, représentent vraiment un rassemblement. Moi, je trouve que le mot est quand même assez particulier. Alors, si le rassemblement, c'est d'aller vers la droite classique, ce qui est peut-être votre souhait, pour l'instant, il n'y a rien de fait.
Et vous voyez Thierry Mariani, quand même, une célébrité internationale.
Connu jusqu'à Damas.
Bien sûr, et en Russie.
Ouais. Il est évident que le but de ces rassemblements, c'est de faire le rassemblement des droites comme les gauches ont fait le rassemblement des gauches. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je pense que ce rassemblement est aujourd'hui possible dans la mesure où le Front National n'est plus un parti d'extrême droite.
J'ai beaucoup de mal à croire au hasard dans le choix du nom, d'autant plus que quand on écoute attentivement ce qu'a pu dire Marine Le Pen dans son discours, la manière dont elle a désigné Emmanuel Macron en parlant d'errance, de sans frontiérisme, sachant que Emmanuel Macron avait déjà été exposé à des clichés un petit peu sur l'argent, les banques, les juifs, etc. Je trouve que quand même, ça, c'est des signaux qui sont envoyés de manière implicite à des gens qui ont été sensibles aux accusations de cosmopolitisme. On sait à qui ça s'associe. Donc je pense qu'elle l'a fait de manière peut-être un peu subtile, mais pour moi, il y a une évidence de lien entre le nom qu'elle a choisi et les préjugés qu'elle a mobilisés pour montrer que Emmanuel Macron était quelqu'un qui pouvait ne pas faire preuve de fidélité envers la nation. Donc là, on est vraiment dans autre chose. Par ailleurs, le fait de faire intervenir Steve Bannon, donc déjà, pour un parti qui se dit patriote, je trouve ça quand même assez curieux de se placer sous l'égide des États-Unis. Enfin, c'est quand même assez incroyable d'avoir en guest star comme ça un Américain qui vient valider...
Viré.
Oui, c'est ça. Un Américain, en plus, c'est pas l'Américain le plus populaire en ce moment, mais qui vient quand même leur donner une espèce de stature internationale. Et puis, par ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui est un suprémaciste blanc assumé, qui vient leur dire, si on vous qualifie de raciste, ce n'est pas une infamie, mais c'est un honneur que vous devez porter.
On y revient après la publicité, à tout de suite, précisément sur ce sujet-là.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et ce soir avec Patrick Chen, Yvan Rioufol, Nicolas Demenac et vous, Rokhaya Diallo. Donc le FN New Look est donc adoubé par Steve Bannon.
Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a été, effectivement, déjà, c'est pas, comme on l'a dit, l'Américain, il était associé à la Maison Blanche, mais voilà, il a été démis de ses fonctions. C'est pas quelqu'un de particulièrement populaire. Et ce qu'il incarne politiquement et idéologiquement, c'est vraiment la promotion des idées de suprématie blanche, hein, aux États-Unis. Et là, pour moi, d'avoir fait ce choix, parmi toutes les personnalités politiques américaines, c'est aussi un signal et un message qui est envoyé aux gens qui ont des sensibilités racistes.
Non, mais vous pouvez naturellement développer sur ce thème-là, mais maintenant, le racisme est un mot creux aujourd'hui qui est jeté comme une massue, comme un gourdin, ce que vous faites très régulièrement.
Ça dépend de quel côté du racisme.
Pour essayer de qualifier tous ceux qui réclament des frontières, des protections, des enracinements et qui refusent la société multiculturelle. Et dans ce cas-là, on est raciste à vos yeux, naturellement.
Non, il est suprémaciste. Pardon, c'est plus que ça.
C'est vous qui dites qu'il est suprémaciste. C'était Hillary Clinton qui avait dit de lui qu'il était suprémaciste. Vous pourrez dire de moi que je suis suprémaciste parce que dans votre logique, tout le monde, ceux qui ne pensent pas comme vous, sont des suprémacistes et des racistes. Mais le problème est que ce n'est pas vrai. Et donc,
Steve Bannon, je ne parle pas de vous, Yvan Rioufol, mais Steve Bannon, il a revendiqué cette.
Il ne le revendique pas, il a dit exactement l'inverse. Il a dit par dérision qu'il revendiquait le fait qu'il ne voulait plus entendre précisément ces genres d'injures. Et d'ailleurs, il a parlé d'injures quand il a, si vous regardez son texte. Je crois me souvenir que c'était un jure qu'il avait dit. Et donc, ça s'appelle du terrorisme intellectuel. Je pense que ça ne prend plus, mais vous pouvez toujours le développer, parce qu'effectivement, la crainte qu'il y a aujourd'hui de la part de ceux qui...
C'est agaçant, parce que...
De la part... La crainte de mon voisin et d'autres encore, c'est de voir qu'en effet, les droites pourraient un jour se rassembler, comme elles se sont rassemblées en Autriche, elles se sont rassemblées en Italie, et comme la gauche était rassemblée dès les années 70, en associant le Parti Socialiste avec le Parti Communiste, qui était le parti le plus stalinien.
Oui, bah d'accord,
qui soit.
Ça vous le dites souvent. Mais permettez-nous quand même.
Oui, mais il faut le répéter peut-être.
Permettez-nous quand même d'être vigilants et de voir dans ce fameux rassemblement des droites que vous souhaitez quelque chose de dangereux, parce que vous ne nous empêcherez pas de penser que le Front National, ce n'est pas la droite classique, mais c'est ce qu'on appelle, vous refusez sans doute, l'extrême droite. Et je fais partie des gens, et je l'assume, qui n'acceptent pas votre discours de dire on va tout droit, parce que c'est le sens de l'histoire, vers le rassemblement des droites. Pour moi, ce ne sont pas des droites. La droite et il y a l'extrême droite.
Oui, mais
nous
ne
mettons pas tous dans un sac. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec vous ? Moi, je pense que Bannon est un suprémaciste aussi. J'ai lu de ses déclarations.
Dites-moi que le parti de l'aube dorée en Grèce est un parti d'extrême droite. Je vous dis oui, assurément, il répond à la définition. Dites-moi que le parti hongrois, comment s'appelait-il, Jobbik, est un parti d'extrême droite et néo-zadique. Je dis oui, assurément, il répond à la définition. Mais ne me dites pas. Je ne veux pas du tout me faire l'avocat.
Si vous êtes honnête intellectuellement, vous ne pouvez pas dire que les formations d'aujourd'hui
qui sont portées par le réveil des peuples sont des formations d'extrême droite. Elles refusent. Ce sont des peuples qui réclament la démocratie et qui en plus s'opposent au nouveau totalitarisme qui est celui qui est porté par l'islam radical. Donc ça n'a rien à voir avec l'extrême droite.
Nicolas Demenac,
votre vision est sans doute importante et est sûrement intéressante, mais c'est pas ce que ressentent les Français par rapport au Front National. Puisque vous ne croyez pas ce qu'on vous dit, nous, ce que disent vraiment les Français dans tous les sondages et dans les élections, c'est qu'ils ne veulent pas du Front National au pouvoir. C'est une constante, alors que vous ne cessez de nous dire depuis des années... Depuis des années, vous nous dites « ça va se faire, le peuple est en marche, la fusion des droites est en route ». Ça ne se fait pas en France.
Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous.
Non, mais je vous parle de la France. Vous m'avez parlé de la France.
J'entends bien, mais vous voyez bien le matraquage médiatique encore ici.
La faute des médias encore. La faute des médias encore. La haine de Jean-Luc Mélenchon.
On va me sortir le complotisme.
Ce sont les commentateurs tristes.
Ce sont des réalités. Ce sont des réalités.
Le fait de ne pas être vous n'est pas un complot.
Alors j'aimerais qu'un politologue vienne vous dire effectivement que c'est une. Non, mais d'accuser quelqu'un d'extrême droite, c'est très facile. Ça le décrédibilise. Mais simplement, ça répond à des critères. Ce sont des partis qui ont le culte du chef, de la violence, qui sont contre les processus démocratiques et qui fonctionnent en général par coup d'État. Vous ne pouvez pas objectivement objectivement que le Front National répond à ces critères-là.
Et
en même temps, je
ne
crois pas qu'il faire excessivement l'avocat du Front National, ce n'est pas non plus ma famille.
Yvan Rioufol, vous avez beau invoquer le réveil des peuples, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être politologue pour se rendre compte que le Front National a été rejeté lors de la dernière élection présidentielle. Donc ce dont vous avez le sentiment qu'il y a un intérêt pour le Front National, ce n'est pas une réalité.
Mais il est arrivé au deuxième tour, je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Oui, mais il a perdu.
Allez, autre sujet dans un instant, si vous voulez bien. La guerre des robots et des ouvriers.
On refait le monde
dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Rokhaya Diallo, Nicolas Domenac, Yvan Youfol et Patrick Chen. Ce n'est plus de la science-fiction, on vous en parle sur RTL depuis ce matin. Les robots vont débarquer en masse dans le futur entrepôt d'Amazon en France, actuellement en construction à Brétigny-sur-Orge. Plusieurs milliers de machines intelligentes vont travailler aux côtés des ouvriers humains pour manipuler les colis. Tout secteur confondu, on estime que moins de 10% des travailleurs français seraient susceptibles d'être remplacés par des robots, soit 1,49 million d'emplois. Alors, les robots sont-ils une menace pour nos jobs? On nous dit quoi déjà sur les réseaux sociaux?
Évidemment qu'on est foutu, Marco. Benoît. Les robots permettent un gain de temps de l'ordre de 50%, panique Nicolas en lisant l'article. D'autres sont moins alarmants, comme le spécialiste Gilles Babinet. Si on parle de robots à faible valeur ajoutée, comme chez Amazon, c'est clairement une menace, dit-il. Aux États-Unis, par exemple, face à l'arrivée des véhicules autonomes, 5 à 6 millions de chauffeurs de camions sont amenés à voir leur boulot disparaître dans les 15 ans. Le monde évolue. Soit vous évoluez avec, soit vous restez dans le passé, se réjouit Chaos. Les gens râlent car ils ont des conditions de travail très dures et quand on leur dit que le porte-carton sera fait par des robots, ils se plaignent, lance Mathieu. Ils se plaignent pour rien, leur travail est déjà en sursis depuis des années. Moi j'aimerais que ça aille encore plus vite, là je drac. Amazon enfin assure à Challenge que cette automatisation ne condamne pas tous les emplois. Il y a encore 2000 personnes sur le site automatisé d'Unstable. Et un Français dit, Amazon France va encore embaucher 2000 personnes en 2018.
Sur RTL.fr, 74% de nos auditeurs qui ont répondu pensent que c'est une menace pour notre job, ces robots. Et vous, Patrick Chen?
Moi, je suis assez surpris par la manière dont on aborde ce problème. Au risque de passer pour un dangereux libéral, je l'assume totalement, au niveau économique en tout cas. Moi, j'aimerais rappeler quand même ce qu'est Amazon. Parce que quand on ouvre les journaux, c'est notre habitude journalistique, et je l'ai fait pendant des années, sur des entreprises françaises qui vont licencier 240 personnes, 365. Je rappelle juste qu'Amazon a créé 5500 emplois en France, va en créer 2000 en 2018, et Amazon a peut-être une vertu, c'est qu'ils ont compris qu'il y a des dizaines de milliards d'euros qui se dépensent aujourd'hui sur le web. Moi, j'aimerais bien que les entreprises françaises le comprennent et aillent aussi sur ce terrain-là.
Oh bah, elles y vont, elles essayent, mais elles ont quelques longueurs de retard.
Encore plus, exactement. Alors Amazon, que fait Amazon aujourd'hui? Peut-être évite-t-il le syndrome de la sidérurgie en France il y a quelques années? C'est-à-dire qu'ils ont de l'avance, ils ont compris comment ça allait se passer, et s'ils enlèvent 10% d'une partie des postes pour automatiser, mais pour être plus performants, et créer par ailleurs ces 7500 emplois dont je parle...
Dont 7499 burn-out.
Moi, ça ne me fait pas peur, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire, et pour moi, Amazon, ce ne sont pas des méchants Américains qui ne respectent pas les règles sociales en France. Amazon, ce sont des gens qui ont créé des emplois, 7500, je le rappelle, qui ont investi 2 milliards d'euros en France. Donc j'aimerais qu'on arrête avec cette vision complètement caricaturale.
Et qui ont payé combien d'impôts?
Non mais c'est en train de s'arranger.
Ah bah.
On peut toujours avoir cette vision caricaturale.
C'est factuel, c'est pas tellement caricatural. Hein,
je trouve ça totalement caricatural.
Rappelez simplement comment ils ont payé d'impôts.
Par ce biais-là.
Par le biais des impôts qu'on paye dans la France.
Moi je dis welcome Amazon et welcome les entreprises françaises qui sauront avoir la même vista pour répondre au marché et à la demande des Français aujourd'hui.
Je crois qu'il y a quand même un très gros problème de responsabilité sociale de la part d'Amazon, c'est-à-dire qu'effectivement les robots ne sont pas le problème en soi, c'est-à-dire que moi j'ai pas de problème avec l'idée que des robots puissent prendre en charge des travaux pénibles, parce qu'après tout ils vont remplacer des gens dans des portes de carton. Mais ce qui me pose problème, c'est la manière dont effectivement Amazon échappe à sa responsabilité en tant que entreprise qui devrait payer des impôts. Les emplois qui sont créés sont des emplois extrêmement pénibles, abrutissants, mécaniques, etc. Non, mais c'est un vrai problème. Et puis, c'est quand même un mastodonte qui écrase les librairies, qui écrase le commerce aussi en supermarché, etc.
On n'écrase pas les librairies parce qu'il y a une loi en France qui protège le livre, c'est la loi Jack Lang.
Absolument. Mais il y a quand même.
C'est faux ce que vous dites. Ils n'écrasent pas du tout les libraires, c'est pas vrai.
Je pense que l'achat de livres en ligne sur Amazon est un achat qui menace l'achat en librairie. Je le crois sincèrement. Et pas seulement Amazon vend à manger, vend toutes sortes d'accessoires, vend l'électroménager, etc., etc.
Mais
c'est-à-dire que non, c'est parce que s'ils pouvaient commencer par redistribuer et payer des impôts en France, ce serait pas mal. Hein.
Mais je suis d'accord avec vous.
C'est pour ça que je parle
sujet.
De responsabilité.
C'est
non, parce qu'on peut pas prendre l'argent des Français et ne pas avoir à participer à la redistribution des richesses. C'est le minimum qu'on demande. C'est un mastodonte.
C'est un point qui est très clair.
Nicolas,
une partie de ma famille vient de Lyon, de la soirée lyonnaise.
Moi aussi.
Et dans le folklore familial, les canuts, c'était qui avaient cassé les métiers à tisser qui arrivaient, c'était resté célèbre. Et au fond, on en tirait la leçon que quand surviennent des révolutions technologiques, il faut gérer ça avec intelligence. En l'occurrence, gérer ça avec intelligence, c'est pas forcément ce qu'on fait parce qu'on a une peur terrible de ce qui arrive et à mon avis totalement disproportionnée. Il y a un vrai problème. Le nier, comme ça vient d'être fait en disant tout va bien se passer, c'est formidable, Amazon.
Parce que je
ça me semble très très corriger, mais en même temps...
Vous avez poussé de bouche un peu loin, c'est
oui,
ça
mais en même temps, tenter de nous faire croire que ça va nous remplacer. J'ai vu une étude qui disant que les traducteurs seraient remplacés en 2025. Les journalistes, oui, Marc-Olivier Fauchiel en 2026. Or, moi, je crois que, je dis, il a fallu des millions d'années d'évolution pour arriver à un Marc-Olivier Fauchiel ou même un Ivan Rioufol, et que ça ne va pas être en quelques années qu'on va remplacer Marc-Olivier Fauchiel ou même Ivan Rioufol.
N'est-ce pas, Ivan?
Oui, mais moi je suis effrayé, mais pas de cette même manière-là. Moi je comprends ce processus de robotisation. Il y a déjà eu le processus de l'automatisation qui a fait que le poinçonneur des lilas que chantait Gainsbourg a été supprimé depuis très longtemps. Et donc ceci va avec, malheureusement, la modernité, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais cela ne me choque pas. Moi ce qui me choque, plus paradoxalement, en fait c'est un autre sujet, je suis un peu hors sujet, c'est la robotisation de nos comportements. Parce que ce qui apparaît derrière l'environnement de ces robots, c'est que l'homme lui-même devient un robot, et à travers les GAFA, à travers les Google, etc., qui vous suivent, vous savent vos goûts, etc., vos préférences. C'est un autre problème. Je trouve que c'est le problème le plus grave, et c'est celui-ci, c'est-à-dire cette laisse que l'on nous oblige à mettre, en tout cas, si l'on passe par ces GAFA, par ce monde-là. Mm-hmm. Et donc, je trouve que le grand luxe de demain, ça va être précisément de couper ces liens-là, de couper ces liens pour revenir à un univers qui n'aura sans doute peut-être pas de portable non plus, en tout cas, qui ne fera pas appel à Google, qui ne fera pas appel à Amazon.
Mais vous y croyez vraiment ?
Mais je pense qu'on
arrivera à un monde comme celui-ci.
On la bascule dans l'autre sens.
Un monde préservé, mais qui sera un monde très luxueux.
Mais vous savez qu'on s'attache terriblement aux robots. Que les Américains, par exemple, ils ont des robots démineurs. Quand leur robot démineur pète, ils pleurent. Ils pleurent.
Bah justement, je voudrais éviter
vous
ça.
Vous devez être très inquiet. Hein.
Allez, autre sujet dans un instant. Vous le savez, Mayotte au bord de l'explosion.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchel.
Et ce soir à 19h48 avec Patrick Chen, Ivan Rioufol, Nicolas Domenac et Rokhaya Diallo. Je suis de leur côté. Mayotte n'a pas été suffisamment accompagnée. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL la réponse d'Annick Girardin. Aux habitants de Mayotte, la ministre des Outre-mer a été chahutée sur place. Elle promet des renforts de sécurité depuis 3 semaines. Les manifestants protestent contre l'insécurité, l'immigration illégale. Ils ont l'impression d'être oubliés par la République, méprisés par le gouvernement. Vous comprenez cette colère ? L'État est-il à la hauteur avec ce qui est mis sur la table ce soir sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Mais réaction mitigée entre Ben qui lance bravo aux gens qui se réveillent, les abandonnés de la République et Néro qui enrage. Mais est-ce que quelqu'un a une idée du montant des allocations que la France verse dans cette région ? Le terme abandonné est un peu fort. Il faut surtout remettre de l'ordre. Alain va comme certains encore plus loin. Pour ma part, je n'aurais jamais permis à Mayotte d'être un département français. C'est une vanne grande ouverte pour l'immigration clandestine. Fabrice, lui, soupire. On fait tout pour que ces îles demandent leur indépendance, ma parole. On laisse la misère et l'inégalité s'installer. Sa gueule, on envoie les CRS sans rien régler de la misère et on recommence. Je vis à Mayotte. Effectivement, nous sommes laissés pour compte, écrit Adrien. Je serais ravi de vous exposer les écarts de traitement avec La Réunion, par exemple, d'homme le plus proche. C'est pas que les autorités comprennent pas, c'est juste que comme vous êtes loin, noir, que personne va passer vos vacances chez vous, bah, le gouvernement s'en fout, résume crûment Fab. La preuve, dit Encole, une députée En Marche interrogée sur France 3 ne savait même pas ce qui se passait à Mayotte, elle croyait même que c'était une ville. La ministre des Outre-mer est arrivée, mais en disant « Je ne suis pas la mère Noël », quel mépris, soupire Younous. Le problème, c'est que même si elle annonce plus de renforts, ça ne résoudra rien. Le problème, c'est la porosité des frontières, s'inquiète enfin Andrea.
Nicolas Domenac, vous l'avez entendu, la ministre tout à l'heure, donc interviewée depuis Mayotte, vous avez l'impression qu'enfin, elle arrive avec des propositions à la hauteur de la situation.
Elle a du talent, de la force, mais je l'ai trouvée gonflée quand vous l'interrogiez et que vous lui disiez « vous n'avez pas l'impression d'avoir un peu de retard à l'allumage, ça fait plusieurs semaines qu'il y a un mouvement de grève et vous arrivez seulement maintenant ». Ben non.
Pas seulement maintenant, elle dit « on a travaillé à Paris pour proposer des choses et on vient avec des choses dans les mains ».
Sauf que s'ils étaient intervenus plus tôt, le mouvement n'aurait pas eu cette ampleur-là, qui n'est pas seulement un mouvement contre l'insécurité et contre l'immigration sauvage, parce que c'est un vrai problème là-bas. Mais vraiment, la République a délaissé, voire abandonné, ce département. Parce que toutes les infrastructures sont en souffrance de manière extraordinaire. Les routes, les hôpitaux, les écoles. Vous vous rendez compte que dans la plupart des collèges, ils sont obligés de faire des rotations. C'est-à-dire 60 élèves une partie de la journée, le matin, 60 élèves dans la journée. Je veux dire, c'est un scandale la façon dont les traite. Alors, on pourrait dire qu'il y a telle et telle chose. Sans doute, on donne un peu d'argent, mais on n'en donne pas assez. On le sait bien, ce n'est pas des sommes formidables.
1,8 milliard. sur 10 ans.
Mais ce n'est pas des sommes formidables dont on aurait besoin. C'est d'une volonté politique claire, et puis dire de suivre ça et de mettre ça en route. Là, maintenant, il y a une opportunité qui est ce mouvement, avec des responsables de ce mouvement qui forment des nouveaux cadres.
Du rôle de l'État, l'exemple le plus frappant qui vient de donner, moi j'avais noté ça aussi, l'histoire des écoles primaires où les enfants ne vont à l'école qu'une demi-journée parce qu'il n'y a pas assez de classes, donc ils font des rotations. L'État doit faire son boulot, ou alors tout le monde s'en fout et puis on dit ça n'existe plus. Il y a une histoire, il y a une relation, il y a plus qu'une relation à la France, c'est le 101e département français, il suffit de prendre ses responsabilités. Alors prendre ses responsabilités, ça coûte de l'argent, mais c'est vrai que les sommes qui ont été annoncées paraissent très importantes. Au regard du budget de l'État, il faut faire des choix. Ces choix n'ont pas été faits depuis longtemps. Bon, j'aime pas donner des sons comme ça, vu d'ici, qu'est-ce que c'est facile. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une démission de l'État qui est assez effrayante quand même.
Laquelle Annick Girardin, qui disait que l'État avait abandonné Mayotte, était elle-même ministre des Outre-mer dans le gouvernement précédent, hein, quand même, hein, si je ne me trompe pas. Donc l'État a abandonné, elle-même se met dans le lot. Donc, hein.
Moi, je trouve que Mayotte, c'est l'exacerbation sur un si petit territoire des problèmes qui sont posés par l'immigration clandestine, naturellement. C'est-à-dire ce problème qui est interdit d'être abordé en France, en métropole, sous réserve d'être traité de raciste ou xénophobe, suivez mon regard, mais qui là-bas auprès des Mahorais passe beaucoup mieux. Je m'en félicite parce qu'en effet, les Mahorais ne sont ni racistes ni xénophobes, simplement, ils crient, mais depuis des années, ça ne date pas d'il y a deux mois, ils crient depuis des années à la folie de voir qu'en effet, la France, la métropole, ne préserve pas les frontières parce que toutes les Comores alentours, les femmes des Comores en général, viennent là-bas pour y accoucher afin de bénéficier, parce que c'est ça le fond du problème, afin d'y bénéficier du droit du sol qui permet ensuite, avec une manière quasi automatique, d'accéder à la nationalité française, puis ensuite le regroupement familial. Donc les trois problèmes qui sont posés, tu permets que je finisse mes phrases, les trois problèmes qui sont posés, c'est de savoir comment on peut maîtriser une immigration clandestine, est-ce que l'on doit supprimer le droit du sol et est-ce que l'on peut aménager le regroupement familial. À tout ceci, Madame la ministre répond qu'elle va envoyer des gendarmes. Donc c'est une fausse réponse.
Non, juste une toute petite différence pour dire que les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. On a là-bas quand même, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème d'immigration clandestine en France. On n'est pas tous à dire ça d'une manière abrupte, on réfléchit aussi. Moi, je dis simplement que là-bas, il y a 45% d'étrangers en situation régulière. 45% de la population. Là, c'est un problème qu'il faut traiter. Et là, il est réel, il est face à.
Enfin, c'est un problème qui est connu depuis longtemps. Et
je suis d'accord.
Non, mais ce que dit Patrick, gentiment, ça ne se transpose pas en métropole aussi facilement que vous le faites, Ivor Youfol. Je le dis autrement qu'il le dit.
Je ne transpose pas. Je dis que c'est un problème qui est exacerbé là-bas. Mais ce qui peut être, en revanche, transposé en métropole, c'est la réflexion qui doit être menée aujourd'hui sur le droit du sol et sur le regroupement familial, si, certainement.
Enfin, il y a quand même un problème qui me semble assez majeur à Mayotte, c'est qu'il y a un taux de pauvreté, un taux de 84% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je pense que pour moi, c'est l'élément explicatif principal. C'est-à-dire que 84%, c'est incroyable.
Revenons vite à la crise sociale et oublions cette crise identitaire. Mais vous voyez bien que le moteur aujourd'hui des grandes crises, aujourd'hui, que ça vous plaise ou non, ce ne sont plus les crises sociales, ce sont les crises identitaires. Mais non, arrêtez, je vous interromps, c'est un dialogue.
J'ai dit trois mots. Alors, si après mes trois mots.
Ah bon, alors si on ne peut pas vous dire. Si on a.
Bah,
je vous ai dit. Parce que je vous ai interrogé. Je vous ai interrompu. Non, pas même pas.
Vous savez, les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément que je suis noire. Donc, vous n'êtes pas obligé de leur. indiquer de cette manière-là.
Vous faites tout pour le faire savoir.
Non. Jusqu'ici, c'est vous qui l'avez fait savoir aux gens qui ne le savaient pas nécessairement. Alors, pour continuer sur mon propos, voilà, c'est 84% de pauvreté. Moi, je pense que c'est quand même un facteur explicatif assez important. Par ailleurs, je trouve qu'on a toujours une manière d'exposer les Outre-mer comme des territoires qui sont chanceux d'avoir la République, à leur esquisse, etc. L'intérêt des territoires d'Outre-mer, et en particulier de Mayotte, c'est quand même un intérêt géostratégique. J'attire votre attention sur un article très intéressant que j'ai lu d'une journaliste qui s'appelle Estelle Youssoufa, qui connaît très bien Mayotte, qui rappelle que quand même la situation géographique de Mayotte est aussi un bénéfice pour la France, du fait des réserves en termes de pêche, du fait des réserves hydrocarbures, du fait qu'aussi il y a une biodiversité qui est quasiment inégalée dans le reste de la France, y compris dans les Outre-mer. Donc, il ne faut pas simplement considérer les Outre-mer comme des boulets que la France aide d'une manière généreuse. Si la France a décidé... Non, mais c'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai entendu du côté Twitter. Mais il y a toujours cette espèce de rapport...
Qui n'ont pas été développés.
Si, ils ont été développés par les twittos qui disent que ça coûtait cher. Ça, je ne l'ai pas inventé. Enfin, alors, vous ne l'avez pas voulu entendre, mais je pense que je ne l'ai pas inventé. Et c'est un cliché qui est extrêmement présent. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même un désinvestissement...
La question qui est posée de savoir comment on fait face à une
Parce que je ne suis pas ministre des Outre-mer.
Face à une immigration asphyxiante. Nantes. Pardon.
Parce que je ne suis pas ministre.
Elle n'est pas encore ministre.
Ah non, c'est pas ça. Non, mais vous allez sur des terrains sur lesquels vous êtes familière, sont familiers parce qu'ils sont faciles à traiter.
Mais
sur,
vous aussi, comme alors.
La crise économique et sociale est le leitmotiv maintenant de tous ceux qui veulent balayer.
Mais l'immigration, c'est le vôtre. Donc,
mais non, mais c'est pas le mien. C'est celui des Mahorais.
C'est votre obsession.
C'est pas mon obsession, bon sang.
Mais bien sûr que si.
Vous voyez,
il reste 30 secondes pour vous mettre d'accord.
L'aveuglement qui vous habite. Ce sont les Mahorais qui sont en train de vous dire et qui hurlent dans les rues depuis 2 mois en disant qu'il y a trop d'immigrés clandestins. Et vous dites, c'est mon obsession à moi. Mais donc, c'est absolument grotesque.
Les Mahorais sont pauvres aussi. Ils sont pauvres et ils ne sont pas soutenus par la République.
Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Mahorais qui disent qu'il y a trop d'immigrés clandestins?
Je leur réponds qu'effectivement, la République.
Vous leur dites qu'ils sont pauvres. Ben oui, bien sûr.
Bon, écoutez, si vous ne voulez pas m'entendre, je ne vais pas continuer.
Mais non, mais j'entends, j'attends votre réponse.
Allez, vous n'avez pas 30 secondes, parce qu'on a fini.
Je réitère ce que j'ai dit. Je pense que la République n'assume pas son devoir en ne traitant pas Mayotte de la même manière que le reste de la France, tout simplement.
Non, j'ai rien compris.
Eh bien, elle va vous expliquer pendant la pute, ça tombe bien, c'est maintenant. Après, ça sera le flash et ensuite, c'est Jacques Pradel. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir Marc-Olivier.
Au sommaire de l'heure du crime.
3 ans après la disparition mystérieuse du Boeing 777 de la Malaysia Airlines, qui assurait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin, personne ne peut dire aujourd'hui, avec certitude, ce qui est vraiment arrivé. Comment un avion transportant 239 personnes a-t-il pu se volatiliser ainsi? Guylain Ouattrelot, qui a perdu dans ce drame son épouse et 2 de ses enfants, ne croit pas aux explications officielles. Pour lui, ce sont des mensonges même inventés dès le 8 mars 2014. Nous allons parler évidemment avec lui dans un instant et avec mes autres invités que je vous présente tout de suite après le flash.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.